commentaire. Marc Legault.
Marc, évidemment, hier, on a parlé du 11 septembre 2001 et toi, tu as un souvenir particulier de cette date-là parce qu'il y a quelque chose qui est survenu à la suite de ces événements tragiques-là.
Oui, évidemment, les événements comme tels n'ont pas de lien avec le sport, mais par la suite, il y a eu beaucoup de liens avec le sport, justement, en lien au 11 septembre. Souviens-toi, les activités avaient été annulées du côté du baseball majeur, évidemment, du côté de la NFL, mais par la suite, on avait repris ça, et moi, j'ai toujours dit, tu sais, il n'y a pas beaucoup de moments dans la vie où est-ce que tu es capable de rassembler 35, 40 000, 50 000, et même, peu importe, 80 000 personnes dans un même endroit, et lorsqu'il y a des tragédies comme ça, lorsqu'il y a des événements comme ça, ben, les gens profitent, lorsqu'ils sont rassemblés pour souligner ça et ainsi de suite. Donc, c'est des grands moments de rassemblement. Ça donne toujours lieu à des grands moments d'émotion. Et moi, ça s'est passé 6 semaines plus tard. Mais à chaque 11 septembre, évidemment, lorsque je fais le lien avec le sport, moi, j'ai un seul moment qui me revient en tête. C'est vrai qu'il y a eu un paquet de célébrations qui ont été faites sur certains terrains de sport professionnel. Mais moi, il y a un moment qui me revient en tête. Comme je t'ai mentionné, c'est 6 semaines plus tard. Et c'est George W. Bush. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qu'on soit pro-républicain, pro-démocrate, peu importe. À ce moment-là, aux États-Unis, 6 semaines après les événements du 11 septembre, les États-Unis étaient unis, ne formaient qu'un, et t'as George W. Bush, troisième match de la Série mondiale, les Yankees de New York, les Diamondbacks de l'Arizona, le troisième match a lieu à New York, au vieux Yankee Stadium. Et là, t'as George W. Bush, on apprend qu'il va lancer la première balle de ce match-là, le lancer protocolaire. Et il y a eu des documentaires faits là-dessus, Michel. Pourquoi? Parce que tu le vois sous les gradins, tu vois sa femme et tu vois sa fille qui le supplie de ne pas se présenter au monticule. Parce qu'à ce moment-là, New York est sous grande alerte, évidemment. La ville on sait pas ce qui va se passer. T'sais, il y a eu tellement de rumeurs, tellement de choses. Et là, tu as George W. Bush. Oui, il y a de la sécurité, mais il va se présenter au milieu de 55 000 personnes, tout seul, sur le monticule. Et on parle d'attentats, on parle de fusillades, on parle de toutes choses. Et là, t'as sa femme et sa fille qui le supplient de pas y aller. Puis George W. Bush, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, il se dit, faut que je lance une prise. C'est un moment symbolique dans l'histoire de notre pays, rien de moins. Je dois lancer une prise et les Américains doivent m'acclamer. Et là, t'as George W. Bush. Tu sais, souvent, dans les lancers protocolaires, Michel, les gens vont devant le monticule parce que c'est loin. Si t'es pas habitué, si t'es pas un joueur de baseball, c'est pas évident de monter sur la plaque du lanceur et de lancer.
Surtout à l'âge qui était rendu aussi.
Exactement.
60 pieds, là. C'est quand même loin de tirer une prise, là.
Exactement. Mais lui, c'est pas ça. Il s'est présenté directement sur le monticule, sur la plaque du lanceur. Il a pris la balle et Michel, il a probablement lancé le meilleur lancer protocolaire de l'histoire. Une prise en plein cœur du marbre. Évidemment, la foule a explosé et s'est mis à crier le fameux USA, USA. Bush a crié, a quitté le terrain. Il a fait le pouce en l'air et c'était terminé. Mais quel moment symbolique. Et moi, je vais toujours m'en rappeler. Et t'as les gens dans les gradins, évidemment, qui pleuraient parce que l'émotion est encore à fleur de peau. Mais quand tu dis un lancer réussi, c'en était tout un.
Écoute, je me rappelle encore ces images-là avec son petit manteau. Écoute, c'est vrai. T'as tellement raison, Marc. On a les images gravées dans la tête. As-tu été surpris hier d'apprendre que Steve Yzerman quittait le Lightning de Tampa Bay?
Ben, totalement surpris pour toutes sortes de raisons, dans le sens que Yzerman a fait un travail spectaculaire avec le Lightning de Tampa Bay. Michel, il a construit une formation qui va être compétitive pour les prochaines années et malheureusement ne pourra pas récolter le fruit de ses récoltes parce que c'est ça qui m'a surpris le plus parce que le Lightning, selon moi, est à la veille de remporter une Coupe Stanley au cours des prochaines années. Évidemment, Yzerman ne fera probablement plus partie de cette organisation-là, à moins qu'il la gagne cette année parce qu'il va être là à titre de conseiller spécial à Julien Brisebois, qui, lui, il mérite vraiment aussi cette nomination-là. Ça fait longtemps qu'il est dans l'organisation. Il avait fait du bon travail avec le Canadien de Montréal. Donc, on y va du côté de la continuité, du côté du Lightning de Tampa Bay, de la stabilité. Mais quand on regarde la feuille de route du côté d'Yzerman, il a été là pendant 8 saisons. Il y a 3 finales de conférence et 1 finale de la Coupe Stanley. C'est une équipe qui est compétitive année après année. C'est sûr que ça l'aide quand t'arrives dans une équipe puis il y a déjà Stamkos puis Edmund. Mais tu sais, Michel, il y a d'autres équipes. Je vais te donner des duos puis c'est des duos plus proches de nous. Là, c'est pas pour planter personne. Mm-hmm. Mais tu sais, à Ottawa, par exemple, t'avais le duo Carlson-Spezza. C'est un excellent duo. T'avais le duo Price-Subban à Montréal. C'est un excellent duo que tu peux dire on peut bâtir autour de ça. Ben lui, il a bâti autour de ça. Et ce qui est surprenant dans le cas d'Yzerman, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment de choix très, très haut au repêchage. Le seul qu'il y a eu, c'est Jonathan Drouin, puis il a transformé ça en Mikhail Chergachev, qui est une excellente transaction. Mais pour ce qui est des autres, là, tu sais, les Kucherov, les Palates, Vasilevski. Puis ça, c'est des joueurs qui n'ont pas été repêchés parmi les 10 premiers. C'est des choix un peu plus loin au repêchage. Donc, il a fait un excellent travail. Mais j'ai été surpris qu'il quitte. Selon moi, Yzerman a été un innovateur. On l'a vu. Il a promu John Cooper. Oui, il avait été embauché par Julien Brisebois dans la Ligue américaine. Mais Cooper, c'est un gars qui est différent un peu. C'est lui aussi qui avait nommé Guy Boucher, qui était totalement différent à cette époque-là, ou aussi des autres entraîneurs qu'on connaissait. Moi, j'ai bien aimé le travail de Yzerman. Et écoute, c'est pas une surprise pour personne. Il s'en retourne à Détroit, rejoindre sa famille, et dans un an, il va probablement être le DG des Red Wings de Détroit.
C'est carrément ça qui court actuellement, là, Marc, parce que veut, veut pas, les Red Wings, dans deux ans, vont avoir besoin d'un directeur général. Puis Yzerman étant là-bas, il y a beaucoup de personnes qui font des associations entre les deux. Fait que c'est ça qui court actuellement comme rumeur. Puis hier, il a pas voulu répondre à ça non plus. Il a dit ça là-dessus.
Non.
Je peux pas répondre.
Non, mais c'est ça. Puis le contexte, il prêtait pas hier. Puis tu sais, Ken Allen, ça fait longtemps qu'il est avec les Wings de Détroit. Donc lui, ça serait pas surprenant non plus qu'il ait une promotion, entre guillemets, qu'il devienne président de l'équipe. Tu sais, qu'on le mette dans un poste encore plus, peut-être un peu plus prestigieux que DG dans une équipe. Ça fait longtemps qu'il fait partie de la famille Elitch et ainsi de suite. Donc, je pense que c'est la suite logique des choses.
Marc Legault, merci beaucoup. On se retrouve demain matin sans faute.
Salut, Michel.